qui est pas mal ici. Bon, déjà, c'est peut-être de profiter de la lumière, tu vas me dire.
On est là sur
la partie
verte.
On est sur la partie jaune, sur le bunker mammouth ici. Donc on est là, gros bébé, 2500 m3. On peut faire après un petit passage dans ce bunker qui est en fait un logement pour 20 soldats. Celui-là, il a été totalement désencombré, mais le bunker est vraiment très intéressant parce qu'il reste par exemple les fixations pour les lits de camp, comme on avait vu à Brest. Donc celui-là peut être pas mal. Il y a aussi l'emplacement du périscope. Donc voilà, c'est assez sympa. On va essayer de faire le maximum en deux jours en tout cas. On va faire le max en passant entre les gouttes. Allez, zou.
À la pointe du Raz, le bunker de la discorde. Raphaël Kraft, Guillaume Baldi.
Moi, je suis Bernard Baigne. Donc moi, je suis un des photographes du service. Donc moi, j'accompagne tous les chercheurs du service de l'inventaire. Moi, je suis les yeux de mon collègue chercheur. Donc il me demande de faire des photos pour accompagner son discours avec le moins de photos possible, d'expliquer un lieu, quoi. Et j'attends les ordres de mon capitaine pour...
Et donc le capitaine en question, c'est Guillaume
Guillaume Lécuyer, je suis chargé d'études d'inventaire du patrimoine à la région Bretagne depuis 2007, comme Bernard.
Alors où est-ce qu'on se trouve précisément?
On est au bout de la Bretagne, hein, l'extrême ouest, Plogoff, pointe du Raz. Sur la terrasse, on est à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on a déjà une position dominante, on se dit, bon voilà, le Bentham c'est une station radar, c'est pas pour rien qu'ils se sont mis sur l'Allemagne nazie, s'est implantée sur la partie la plus haute de la pointe du Raz. Alors ici on est sur la dalle de couverture en fait d'un bunker, du bunker qui reçoit une antenne, mais une antenne gigantesque, puisque cette antenne elle faisait 16 mètres de haut. 16 mètres de haut, c'est 4 étages, c'est grand. 30 mètres de longueur, 11 mètres, c'est une grosse antenne en treillis métallique, 25 tonnes. C'est vraiment un ouvrage énorme. L'antenne elle a la possibilité en fait d'émettre et de recevoir vers le nord-ouest. Donc là, vers le nord-ouest, c'est simple, c'est la mer d'Iroise. Ici, avec cette installation radar, l'Allemagne nazie pouvait détecter des avions qui décollent en fait dans le sud-ouest de l'Angleterre. Donc à 300 km de distance, le radar est capable de détecter l'anomalie qui est en fait un avion ou des avions qui décollent. Le radar, il est plutôt précis, il va être un petit peu modernisé au fil de la guerre. C'est vraiment le nec plus ultra de la technologie, c'est de la recherche. On est vraiment dans les sciences et techniques, dans les premiers pas de l'électronique. Et ce radar, du coup, il détecte vers le nord-ouest, mais il détecte aussi double face vers le sud-est. Et le sud-est, on va retrouver toute la côte sud de la Bretagne. Et ce radar, en fait, il n'est pas tout seul. Il s'inscrit dans une chaîne de radars, et donc des radars mammouth. Mammouth, c'est son nom, en raison de sa taille. 338 mètres carrés de surface d'antenne, c'est considérable. Des radars comme ça, on va en avoir en fait à Plévenon, au Cap Fréhel, orienté vers le nord, en baie de Morlaix à Pouganou, orienté vers le nord. On retrouve la pointe du Raz, et le prochain sur la côte sud, c'est à Saint-Nazaire, sur un site qui s'appelle le Camp des Torpilles. Et en fait, on a un bunker qui est orienté vers le sud-ouest et qui va du coup balayer, lui, à 300 km de distance, dans le golfe de Gascogne. En fait, ici, on est sur un radar de l'armée de l'air. Mais sur la pointe, à 500 mètres, on va retrouver d'autres radars, donc moins puissants, de l'armée de l'air, mais aussi de la marine. Et le tout, en fait, est protégé par des canons anti-aériens. C'est que là, en fait, on a le plan de cet ensemble fortifié que j'oriente, du coup, pour vous. Voilà, c'est pas un bunker tout seul. On parle, nous, d'ensemble fortifié. Un ensemble fortifié, c'est composé, en fait, de plusieurs types de constructions. Donc on a en fait des édifices qui sont conçus pour le logement des soldats, qui sont passifs, qu'on retrouve ici sur la carte, indiqué en vert, donc du passif, pour un effectif d'une cinquantaine de soldats. Et puis cet ensemble fortifié, qui fonctionne pour le radar, il dispose de sa propre défense. Et pour sa défense, on va retrouver ce qu'on appelle des postes d'observation et de tir, qu'on surnomme aussi des Tobrouk, en référence à la ville de Libye, Tobrouk en Libye, tout à fait. Des Tobrouk pour la défense, pour des mitrailleuses, pour des mortiers, qui assurent la défense, la périphérie, la défense rapprochée de l'ensemble fortifié. Et puis on a également un bunker casemate pour un canon anti-char, qui est pointé en fait vers l'entrée principale, ce qui était l'entrée principale de l'ensemble fortifié de Mental. Bonjour. Donc une station radar, en fait, c'est vraiment un ensemble, c'est un ensemble de constructions. Ici, on en a une vingtaine.
Ouais, il y a du boulot là-dedans. Hein.
Vous êtes des habitants du coin ?
Oui, oui.
Et vous venez pour...
J'habitais dans le coin, moi, je suis primain. Hein.
Ah, vous êtes de Primelin, oui, donc c'est la commune d'à côté, c'est le bout du monde.
On ne sait pas que c'était... Si, il n'y a pas eu la station radar du temps des Allemands.
Si, si.
Ouais, il me semble. On en parle beaucoup à la télé, mais non. Ça fait de la pub.
Pour quelle raison?
Ça a tiré le monde, quoi. Ça a les galettes Tréguenec, peut-être.
Avec les galettes Tréguenec.
Il y a du monde encore dedans, j'entends parler.
C'est les eaux qui rentrent dedans, ça allait où, après?
Oula! Par ici, on peut aller. Il fallait une lampe électrique pour être bien, pour voir clair.
Ça me permet juste de vous présenter le l'éminent bunker archéologue Jacques Morvan.
Éminent. Bonjour.
Ça fait plaisir de se croiser dans un bunker.
Ouais. Il y a trois types de mammouths.
Oui.
Donc le mammouth Friedrich, qui est ceci. Pour l'armée de l'air, pour les avions. Ouais. Le mammouth César, qui est sur trois plots. Et sur un ouvrage spécifique, c'est le V-143 de la marine.
Ouais.
Et on a le petit qui s'appelle Gustave. Ouais. Le mammouth Gustave, une espèce de frayeur améliorée.
Et du coup, moi, hier encore, je me posais la question du pourquoi on a une cuve dans la dalle de couverture.
Eau,
et en fait,
oui.
C'est la cuve à eau pour le refroidissement.
C'est la cuve à eau pour le refroidissement, c'est ce que je pensais.
Sur la version marine, on a un espace pour le carburant et un espace pour l'eau. Donc je me dis, ici, il y a le carburant, mais il manque le refroidissement. On a bien le refroidisseur. Et en fait, c'est l'eau, c'est sur le toit.
C'est vraiment des discussions geeks. Hein.
Alors c'est ça, et c'est chouette de se retrouver comme ça, parce qu'en fait, on... travailler sur le mur d'Atlantique, sur toutes ces installations, c'est travailler sur une documentation qui est éparpillée au niveau mondial. On est en anglais, en allemand, en français. On a voilà l'équipe Belfra avec Dirk Peters qui a mesuré tous les bunkers, des milliers de bunkers. On a travaillé sur des sites en commun, sur la typologie, donc chaque plan type. Et c'est ça qui est chouette, on n'est pas tout seul en fait. On n'est pas fou en fait.
C'est bizarre comme passion quand même. Hein.
Alors moi, ça fait longtemps que je me pose cette question-là. En fait, il y a le côté le bunker, il y a le côté exploration, il y a le côté tunnel, souterrain,
cabane.
Lumière, cabane. Et puis, il y a le côté que...
le côté qu'ils sont toujours bien placés, il y a un sacré paysage autour. Ouais.
Et c'est des sites qui sont pas cadastrés. Donc, en fait, ils n'existent pas.
Donc là, on est sur un terrain privé, en fait.
Là, on est sur un terrain privé. Si vous regardez la carte, on a 7 ou 8 parcelles lagnérées pour ce seul bunker mammouth.
Ouais, donc des héritages de 12 enfants, etc.
C'est ça. Donc ça va être compliqué de connaître les propriétaires. Mais a priori, c'est des terrains qui, il me semble en tout cas, ont vocation en fait à être préemptés par le Conservatoire du Littoral. Comme au Cap Fréhel, comme d'autres sites comme
c'est
ça.
C'est Natura 2000 aussi.
Natura 2000. Donc il y a une succession de protections. Et une chauve-souris. On a vu une habitante dans la sortie de secours.
Vous êtes bien équipé, vous avez les bottes, la lampe
j'ai
frontale.
Ouais, je sais, j'ai pas envie d'être soit déchiré par les ronces, soit dans l'eau.
Ce qui fait patrimoine, c'est le regard des gens, c'est le regard des habitants par rapport justement à ce qu'on a sous les yeux. Et en fait, moi, en 2023, j'ai détecté justement un groupe de personnes sur Internet qui commençait à porter un regard différent sur ces bunkers, sur ces stations radar, qui avaient envie de s'y retrouver. Et donc du coup, c'est ça que j'ai suivi dans un premier temps, c'est-à-dire des personnes qui commencent à nettoyer, à débroussailler, à dégager. Il y avait de la dépollution. Et puis dans un second temps, on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux. De mois en mois, ils se retrouvent tous les samedis, ils sont de plus en plus à nettoyer. Et ils rencontrent de plus en plus de monde. La presse s'en empare, le Télégramme, Ouest France. Voilà, et c'est ça en fait le déclic. C'est que je vois que des habitants, des Bretons, des Bretonnes ont un intérêt. Claude Marzin nous a contactés en septembre 2023, on était en pleine journée européenne du patrimoine.
Le président de l'association de sauvegarde du patrimoine historique du Mentan.
Nous, on est un service public. Que ça soit une collectivité, un particulier, un propriétaire, un locataire de maison en pan de bois, d'un bunker, d'une chapelle, d'une église, d'un routoir, d'une croix. En fait, quand on a une question, on est saisi, on intervient. on répond. Et là, en fait, comme on avait une thématique sur les héritages militaires, j'ai proposé un rendez-vous, on s'est rencontrés, et puis j'ai tout de suite vu le potentiel du site en termes d'études historiques, parce que je suis historien, et puis derrière aussi de pouvoir dérouler, d'avoir des personnes localement qui se réunissent en association, qui ont envie de porter un projet. Et c'est ça, en fait, qui fait le déclic, ce qui fait patrimoine, et ce qui fait que derrière, on aura ou pas patrimonialisation. Pour l'instant, je sais pas. Je vois qu'en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt autour de ce site.
Qu'est-ce que vous faites, Claude ?
Je refais des murs de pierre sèche, en fait. Sous la végétation, on a découvert des murs de pierre sèche affaissés, abîmés, cassés, qui avant cernaient des champs de labour, en fait, soit du blé, soit des pommes de terre, ou soit même des prairies, pour, du moins pour les animaux. Voilà. Et donc, on va essayer de remettre tout ça en place. Alors, maintenant, en breton, ça veut dire pierre de feu. Ici, on est sur un lieu qui est surélevé, à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et le panorama est juste exceptionnel, c'est-à-dire que d'ici on voit l'entrée de la pointe Saint-Mathieu, l'entrée du goulet de Brest, on voit Ouessant-Molène, on voit Saint, on voit Armène, et on voit derrière, ici on voit le pays Bigoudin et le phare d'Aigues-Mulle. Et en fait, les gens, 8e, 9e siècle, les gens de l'Escoffe ici, ils faisaient des feux, comme les Indiens, pour converser en fait avec les gens de l'île de Saint. Et puis il y avait aussi le fait qu'entre le 8e et le 9e siècle, il y avait les Vikings qui voulaient attaquer la Bretagne. Et il y avait le bastion du christianisme local qui était à l'abbaye de Landévennec en rade de Brest. Et dès qu'ils voyaient les Vikings ici, les gens faisaient des feux qui étaient relayés ensuite par le Ménéum et par Garregantan à Gouézec, qui sont deux points culminants. Et en fait, dès qu'il y avait le feu ici, ça prévenait et prévenait les moines à Landévennec que les Vikings arrivaient. Ouais. Donc depuis 18 mois, on se retrouve, bon là on est une dizaine sur le site, ça varie entre une dizaine et, 20, et une trentaine, on nettoie. Donc tous les derniers samedis du mois, on vient là, on prend du temps entre nous, tranquillement, chacun. Alors ça c'est important, chacun fait ce qu'il a envie de faire. On ne va pas forcer quelqu'un à faire du travail sur du végétal qu'il n'a pas envie de faire. Bon là, il y en a qui sont en train de déterrer un bunker, d'autres qui font du végétal, il y en a un en bas qui nettoie aussi un bunker. Voilà, chacun fait en fait, voilà.
Est-ce que vous pouvez me décrire le site avant que vous n'interveniez et le site aujourd'hui ?
Alors le site avant qu'on vienne, il était glauque. Il n'y avait pratiquement pas de chemin. Il était envahi par les prunelliers. Les bunkers étaient tous soit sous terre, soit dans les gravats, dans la végétation. En fait, on n'avait plus accès à aucun bunker il y a 18 mois. Aujourd'hui, le radar Mammouth, le principal bunker, est propre. On a 5-6 bunkers qui sont propres, 3 ou 4 qui sont en cours de nettoyage, et 4 ou 5 encore qui sont à nettoyer, voilà. Mais on prend notre temps, mais en même temps, on va très vite aussi, vu la masse de travail qui s'est fait.
Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça ?
En fait, on a été pris dans un engrenage parce que ici, ce site du Mentan a été notre terrain de jeu quand on était gamin. On a joué la petite guerre, on avait notre terrain de foot, on avait nos premières fêtes d'ado, on les a faites dans les bunkers. Et c'est un peu cette notre Madeleine de Proust qu'on a voulu ressortir.
C'est parti d'une soirée bien arrosée, disiez-vous, la semaine dernière.
De toute façon, le bistrot, c'est fait pour refaire le monde. Et là, on n'a pas refait le monde, on a refait le même temps. Donc c'est vrai que ce soir-là, on était trois. On a commencé à parler de notre terrain de foot, c'est ça qui nous importait. Et puis, on a attaqué en avril 2023, donc ça fait 18 mois. Et le résultat est bluffant, hein, parce que là, on a fait les journées du patrimoine. On était coup de cœur de la région Bretagne le week-end dernier. Alors, c'est étonnant parce que notre slogan, il y a un monsieur qui a un monsieur de 70 ans qui est venu il y a un an, journée du patrimoine. Et quand il a vu l'état du site, il a joué ici et il nous disait, quand j'étais petit, ma mère, elle me disait tout le temps, Kers d'Arroiry maintenant, va jouer maintenant en breton. Et nous, on a repris ce slogan, va jouer maintenant. Mais en fait, entre nous, maintenant, on s'emmène des messages, qui va jouer maintenant, quoi. Et c'est nous, c'est nettoyer, c'est faire un mur, c'est voilà. En fait, on retrouve un peu notre esprit de 15 ans, 50 ans après, pratiquement 45 ans après. Voilà. T'es tout seul, Alexis ?
Ouais, c'est trop bavard.
Ah, c'est Gunther là, qui est resté.
Bonjour.
Bonjour.
Raphaël.
Alexis.
Qu'est-ce que vous faites là, Alexis ?
Donc là, on est en train d'ouvrir un nouveau bunker qui avait été remblayé. Donc c'est un 621. c'est-à-dire un bunker qui était prévu pour un équipage de 10 personnes.
Pourquoi vous faites ça, Alexis ?
Parce que en fait, je me suis pris au jeu là du groupe que Claude a lancé là pour la sauvegarde du mentor, mais je trouve que c'est intéressant de participer déjà à une action collective.
Vous êtes du coin, Alexis ?
Alors moi, je suis de Plounéo-à-l'Anvers, donc je vais un petit peu loin, voilà.
Vous êtes un étranger, en fait.
Je suis un étranger au Cap, un voisin bigoudin.
Oui, moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que il y a l'aventure Mentor, mais il y a l'aventure qui concerne tous les gens du coin ici, parce que aujourd'hui, quand on travaille souvent dans l'après-midi, dans le matin, on a un gâteau, on a du café, on a le pain pâté vin rouge qui arrive, voilà. Donc les gens ils comprennent notre démarche et puis, comme tout à l'heure, les gens nous disaient bravo, continuez et tout. Ça, voilà, c'est aussi cette fierté-là qu'on a de redonner au Mentor ce que le Mentor nous a donné un petit peu, quoi. Quand on a commencé les travaux en avril 2023, moi j'ai été voir la mairie, j'ai eu un accueil très froid, mitigé. Au début, le maire m'a dit « vas-y », mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on aille si loin, nous non plus d'ailleurs, hein. Et puis on a commencé et puis très vite du côté de la mairie il y a des rumeurs qui nous sont parvenues quand nous étions des néo-nazis, tout ça, voilà. Donc au début on disait rien, puis à un moment moi j'ai appelé le maire en début d'année pour les vœux et je lui dis bon, il faut qu'elle s'arrête ces rumeurs là parce que ça va pas durer, nous on va aller porter plainte pour diffamation à la gendarmerie, et bon voilà. Et puis il y a eu un moment de flottement, de calme, on n'entendait plus trop parler de nous au niveau de la mairie, jusqu'à ce que fin juillet, bulletin communal, non signé, mais on sait qui a écrit le document. Et donc il faisait des références à adeptes du Troisième Reich, tout ça, et puis nous étions des ignorants qui travaillions en fait pour la mémoire du Reich, globalement, quoi. Donc ça a fait du buzz en Plogoff, ça a fait du buzz aussi pour nous, c'est-à-dire qu'il y a eu des tensions, même au niveau de nous, parce que bon, Gunther et Ingrid, là, qui sont allemands, qui travaillent avec nous, l'ont mal pris et ils voulaient quitter l'association et ils étaient désolés. Et moi, je dis non, c'est pas à vous d'être désolés. Et puis, le télégramme s'est intéressé forcément au bulletin communal. Ils voulaient des interviews. Moi, j'ai refusé tout le mois d'août jusqu'à début septembre parce que je considérais que, bon, voilà, il fallait laisser passer les ignorer. Et puis, les élus sont retournés à la pointe du rat et là, ils nous ont traités d'admirateurs de l'aigle allemand. Alors là, bon, ça pouvait plus, donc j'ai appelé le télégramme. J'assume. Bon voilà, donc ils sont là, Gunther et Ingrid à nettoyer.
Hallo, wie geht's?
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ingrid.
Enchanté.
Bonjour, je m'appelle Gunda Fischer.
Enchanté. Qu'est-ce que vous faites là? Was macht ihr?
Nous nettoyons les murs afin de...
Casino, das ist das Casino.
Pour nettoyer le casino, c'était le réfectoire des soldats. Il est situé en sous-sol et construit principalement en bois. Nous voulons nous intégrer ici, tout simplement. Nous voulons nous impliquer, nous faire des amis, prendre pied. Nous sommes des Allemands, nous voulons rester ici. Ça fait maintenant presque 7 ans que nous sommes là. Nous avons émigré. Nous aimerions avoir la double nationalité. Mais bien sûr, ça prend du temps. Notre groupe, le groupe Mentan, nous intègre merveilleusement bien. Ses membres nous aident autant qu'ils le peuvent. De très belles amitiés sont nées.
Cette association est une association culturelle. Nous nous intéressons avant tout à l'aspect culturel des choses. Les murs, les blocos et tout ça sont pour nous secondaires. C'était une époque terrible. Nous sommes...
tellement désolés.
Cette époque nous fait toujours très mal. La guerre est terrible et une telle occupation ne doit plus jamais se reproduire.
Nous voulons participer à l'amitié franco-allemande. Ce n'est pas une chose qui se construit seulement à Paris ou à Berlin, mais aussi ici, avec les gens qui y vivent. C'est cela notre objectif.
La mairie a n'a pas vu ce projet d'un œil positif, accusant les uns et les autres de l'association d'être des néo-nazis, etc. Et à ce moment-là, vous avez dû vous sentir blessé, et vous avez même dit que vous alliez vous retirer de l'association.
Nous n'avons rien à voir avec les nazis. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous avons tous les deux de nombreuses raisons d'avoir émigré. Nous sommes venus en vacances à la baie des Trépassés quand un vieil homme de Leskov nous a rejoints. D'un pas déterminé, il m'a dit « Toi, tu es un Breton. » Moi ? Non. J'ai 60 ans et je viens du Palatinat, en Allemagne. Je ne suis pas Breton. Si, toi, tu es Breton. C'est ton cœur et ton regard qui me le disent. Et puis, nous avons rencontré Claude. C'était durant une randonnée sur le chemin côtier. Et nous nous sommes liés d'amitié.
Wo wir an der Küste entlang gelaufen sind und so hat sich unsere Freundschaft entwickelt. In der letzten Zeit hier in Plogov
passiert. Comme ce qui se passe ces derniers temps à Plogov, ça me fait mal d'être traité de nazi. Nous ne sommes pas des nazis, nous sommes européens. Beaucoup disent que nous sommes des capistes. Et c'est ce que nous voulons être.
Claude, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est qu'un capiste ?
Un capiste, c'est un résident du Cap Sizun. Et donc, le capiste, c'est les communes Plogov, Clédin, Primelin, Esquibien, Audierne, Goulien, Bezec,
Mahalon,
Plouinec, voilà, Pontcroix.
Ce qui nous a étonné également, c'est l'impact de ce chantier. On se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a des
Didier Deniel,
crispations,
journaliste au Télégramme de Brest.
Choses, et on s'étonne que la mairie ne les accompagne pas plus, et puis ensuite, commence à leur mettre des bâtons dans les roues.
En juillet 2024, le bulletin municipal fait mention de cette histoire de Mentan, et vous écrivez « André Marchand a pris sa plume dans le bulletin municipal. Ce dernier appelait à rester circonspect quant au fait d'exhumer illégalement certains vestiges de l'occupation. Nos anciens cherchaient plutôt à enfouir ces horreurs qui sont le symbole et l'héritage du Troisième Reich. Ne perdons pas nos repères, même si les années passent et provoquent chez certains tantôt une amnésie partisane et menaçante, tantôt une dangereuse ignorance. »
Ouais, moi ça m'a fait un petit peu bondir. J'ai suivi pour le journal, par exemple, les grandes commémorations du débarquement en Normandie et sur des sites allemands, sur des sites... j'ai trouvé que ce discours était complètement en décalage. Et donc, il y avait également des choses assez nauséabondes qui commençaient à sortir. Enfin, ils se sont, pour en avoir discuté avec les membres de l'association, ils se sont demandé si on ne les prenait pas pour des néo-nazis ou des gens qui exhumaient des choses pas très glorieuses à la Seconde Guerre mondiale et qui voulaient faire revivre quelque chose. Enfin.
Et donc, les journées du patrimoine de septembre 2024 approchant, vous sortez un article à Plogov, les blocos de la discorde.
Oui, là, Plogov est bien connu pour ses conflits également, qui sont, qui visent soit l'occupant, la centrale nucléaire, enfin, il y a des choses, c'est une population qui est assez réactive, hein, et donc là, on se retrouve effectivement, Plogov, c'est un petit peu comme une île, hein, on se retrouve au bout du monde avec une population, avec aussi assez clivée, hein, ça, j'ai pu le voir, j'ai fait des reportages aussi sur 30 ans après la centrale, enfin, des choses comme ça, où des familles ne se parlent toujours pas, hein, les choses, des murs ont été érigés, et voilà. Et là, on retrouve un petit peu ce schéma-là. Mais je pense que la population, assez massivement, est pour le Mentan et ne comprend pas cette hostilité des élus vers le site.
Demain, mercredi 9 janvier 2025, a lieu une réunion à Plogov, à la mairie de Plogov, avec la communauté de communes, la préfecture du Finistère, le département, etc., etc., pour tenter de débloquer les choses. Vous y serez ?
Non, je ne peux pas m'y rendre, mais je vais suivre l'affaire. Et je.
Quel est l'objet de cette réunion?
Bah d'essayer de trouver, m'a-t-on expliqué, un cahier, enfin essayer d'établir un cahier des charges afin d'ouvrir ce site, m'a-t-on dit, ou peut-être le fermer, qui sait. Mais essayer de trouver une voie de conciliation et d'entente pour que ce site peut-être puisse vivre, non pas comme il a vécu auparavant, mais d'une manière patrimoniale.
Bonjour Claude Marzin. Bon, ça s'est passé comment?
Ça s'est très bien passé. Très bien passé, apaisement, tranquillité. On va travailler sur un cahier des charges. C'était intéressant. Et bon, c'est vrai que nous aussi, on a été vite. Hein.
Vite en besogne.
On a été un peu trop vite. Parce qu'on était pris motivé par notre projet. Et voilà, on va travailler. Le but, c'est que pour fin avril, début mai, le site soit de nouveau ouvert.
Alors, je vais d'abord vous demander de vous présenter.
Ouais, André Marchand, premier adjoint au maire à Plogoff, d'accord. Voilà. Et le maire n'est pas là, donc je prends sa place. Voilà.
Donc, le temps des noms d'oiseaux, gauchistes pour les uns, nazis pour les autres, est terminé.
On n'a jamais traité personne de nazi. Non, que les choses soient claires à ce niveau-là. Et je n'ai jamais traité de
nazis. Mais je ne vous ai pas dit.
Simplement, le problème qui s'est produit à une époque, c'est que quand les histoires du même temps ont commencé, hein, quand les déblaiements ont commencé, et nous, on s'interrogeait effectivement. J'avoue avoir été irrité par moments. Je dis franchement. Le problème, il était que on venait de vivre quand même les néo-nazis sur les Champs-Élysées, d'accord. Il y a eu les stèles dans les Côtes d'Armor qui ont été taguées, hein, et il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont faites à ce moment-là. Et ce que j'ai voulu dire à l'époque, il n'est pas question pour nous d'aller offrir un écrin à ces gens-là. C'est pas ça. Après, ils vont trop vite, quoi. Ils vont trop vite. Ils oublient certaines règles.
Ils l'ont reconnu.
Même en matière de dépollution, oui. Dans quelles conditions ils ont dépollué, là?
Ils l'ont reconnu à notre micro.
Un blocos comme ça, à dépolluer, ça coûte 100 000 euros.
Ah bah, ça fait déjà ça,
des conneries. Oui, ça fait déjà... oui, mais enfin, attendez, vous savez pas, peut-être qu'il y aura des maladies derrière aussi. Hein.
Je pense que c'est très typique de la de l'attitude française aujourd'hui, quoi, du fait que cette guerre, cette occupation plutôt, ça, c'est un passé qui a du mal à passer, et donc je peux comprendre le maire qui se dit bon, il faut pas risquer d'ennoblir comme ça ces bâtiments qui sont le signe de notre oppression, de notre occupation, de notre humiliation, voilà, de notre compromission, mais collective, enfin bon, parce que les acteurs de cette histoire, il y en a quasiment plus de vivants aujourd'hui, quoi, voilà.
C'était Une histoire particulière, épisode 1, à la pointe du Raz, le bunker de la discorde. Coordination Emmanuel Laurentin, chargé de programme Sandrine Chaperon, un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi.
Souvent, les gens qui n'ont pas envie qu'on gratte pensent qu'il y a des choses à cacher sans vraiment savoir ce qu'il y a à cacher. De houloudeye mardizan, escarze de vouenanan, garnan o hovni vibetro, de dereleni vern plogo, erbeza he de botetkes. And this cousin doit rusca.